Un adolescent, livre 3, chapitre 9. 1. Le lendemain, à 10 heures, au moment où je me préparais à partir, apparut Daria Onésimovna. Je lui demandai joyeusement si elle venait de sa part. Non, mais de la part d'Anna Andreïevna. Quant à elle, Daria Onésimovna, elle était partie de la maison à l'aube.
De quelle maison ?
Mais de la même. De celle d'hier. L'appartement d'hier, celui de l'enfant, est loué maintenant à mon nom, et c'est Tatiana Pavlovna qui paie.
Eh, cela m'est égal, interrompis-je. Lui, du moins, il est à la maison. Je le trouverai.
Et, pour mon étonnement, elle m'apprit qu'il était sorti avant elle, et par conséquent, avant l'aube.
Mais il sera rentré depuis.
Non. « Sûrement il n'est pas revenu, et peut-être ne reviendra-t-il point, » dit-elle en me regardant de ce même œil inquisiteur dont elle m'avait agacé lors de ma maladie. De nouveau, leur cachotterie et leur simagrée. Évidemment, ces gens ne pouvaient vivre sans mystère ni ruse. « Pourquoi avez-vous dit qu'il ne reviendrait pas ? Qu'entendez-vous par là ? Il est allé chez maman, voilà tout. »
Je ne sais pas.
Mais vous-même, pourquoi êtes-vous venue ? Elle sortait de chez Anna Andreïevna, laquelle m'attendait tout de suite, sinon il serait tard. Cette nouvelle me mit hors de moi. Pourquoi tard ? Je ne veux pas y aller, et je n'irai pas. Je ne me laisserai plus berner. Je me moque de Lambert, dis-le-lui, et que si elle m'envoie Lambert, je le chasserai à coups de pied. Daria s'effraya terriblement. « Oh non » fit-elle en joignant des mains implorantes. « Attendez avant de vous emporter ainsi. L'affaire est grave, pour vous-même très grave, pour eux aussi, et pour André Petrovitch, et pour votre maman, pour tous. Allez voir Anna Andreïevna tout de suite, car elle ne peut plus attendre. Je vous l'assure sur mon honneur, et ensuite vous prendrez une décision. » Je la regardais avec étonnement et répugnance.
« Sottise, il n'y aura rien, je n'irai pas !»
repris-je avec entêtement et hostilité. « À présent, tout est changé, mais pouvez-vous comprendre cela ? Adieu, Daria, je n'irai pas. » « Exprès, je ne vous interrogerai pas. » « Exprès, je ne veux pas pénétrer vos énigmes. » Mais comme elle ne s'en allait pas, j'attrapai ma pelisse et mon chapeau et sortis, la laissant au milieu de la chambre. Il n'y avait dans ma chambre ni lettres ni papiers d'aucune sorte, et je ne me donnais même pas la peine de la fermer à clé en sortant. Avant que j'eusse gagné la porte de la rue, Pierre Hippolytovitch, sans chapeau et en petite tenue, m'arrêta.
« Arkad Makarovitch ! Arkad Makarovitch ! »
« Qu'est-ce ?
Vous ne donnez pas d'ordre avant de sortir ?
Non. » Il me regardait d'un air perçant et avec une visible inquiétude.
« À propos de l'appartement, par exemple ?»«
Quoi, à propos de l'appartement ? N'avez-vous pas reçu l'argent du terme ?»«
Mais non, je ne parle pas d'argent »
fit-il avec un long sourire et continuant de me fouiller du regard.
« Mais que vous arrive-t-il à tous ? »
criai-je à la fin, presque avec emportement.
« Vous, que désirez-vous ? »
Il se tut quelques secondes, comme attendant toujours quelque chose.
« Eh bien, vous donnerez des ordres plus tard, puisque vous n'y êtes pas disposé, » balbutia-t-il, souriant encore plus longuement.
« Allez, moi aussi, je vais à mon emploi. » Je nommai rien de ce galimatia, parce que chaque trait prendra son importance. Ils me déroutaient tous, alors. C'est vrai. Je m'irritais de percevoir dans leurs propos ces ambiguïtés qui m'horripilaient, car elles me rappelaient le passé. Mais je continue. Versilov, en effet, était sorti de très bonne heure.
« Naturellement, il est chez maman, » continuai-je à me persuader.
« Je n'ai pas interrogé la nounou, une vieille bête, et, sauf elle, il n'y avait personne dans l'appartement. Je courus chez maman, et avec une telle impatience qu'à mi-chemin, je sautai dans une voiture. Il n'y avait pas paru chez elle depuis hier au soir. Avec maman, il n'y avait que Tatiana Pavlovna et Lise. Lise, dès mon apparition, s'apprêta à s'en aller. Elle se tenait toute en haut, dans mon cercueil. En bas, dans le salon, se trouvait le corps de Makaire Ivanovitch. Auprès, un vieillard lisait les psaumes. Sans rien décrire de ce qui ne se rapporte pas à l'affaire, je ferai pourtant observer que la bière, déjà prête dans la même chambre, était tendue de somptueux velours, luxe qui concordait mal avec la personne et les convictions du vieillard. Mais on s'était conformé au désir pressant de maman et de Tatiana Pavlovna. Certes, je ne m'attendais pas à les trouver gais, mais l'angoisse convulsive que je lus dans leurs yeux me frappa. Sûrement, elle n'avait pas pour cause le seul défunt. Tendrement, j'embrassai ma mère et aussitôt m'enquis de lui. Dans le regard de maman, instantanément, étincela une curiosité inquiète. Je l'informai, nous étions restés ensemble jusqu'à une heure fort tardive, mais ce matin, il avait quitté la maison, dès l'aube, encore qu'il m'eût invité, en me quittant, à venir le voir aujourd'hui le plus tôt possible. Maman ne répondit rien, mais à la dérobée, Tatiana Pavlovna me menaça du doigt. « Adieu, frère !» jeta Lise en sortant précipitamment. Je la rejoignis dans l'escalier. « Je savais que tu comprendrais et que tu descendrais, » chuchota-t-elle. « Lise, qu'y a-t-il ? Mais je ne sais pas moi-même, mais il y a quelque chose, et même beaucoup. Sans doute le dénouement de l'éternelle histoire. Il n'est pas venu, et elles ont sur lui des renseignements. On ne te racontera rien. N'interroge donc pas, si tu es intelligent. Je n'ai pas interrogé non plus. Maman est accablée. Adieu. » Elle avait ouvert la porte, je m'élançai dans le vestibule. « Lise, et toi-même, n'as-tu pas quelque chose ?» Son air abattu et désespéré me perça le cœur. Elle eut un regard non seulement furieux, mais presque féroce, sourit amèrement et agita la main. « S'il était mort, il faudrait rendre grâce à Dieu !» Et elle disparut. Elle parlait du prince Serge Petrovitch. Je remontai, triste et surexcité. « L'éternelle histoire !» « Quelle éternelle histoire » pensais-je. Et voilà que subitement l'envie impérieuse me prit de leur faire connaître une partie au moins de mes impressions au sujet de sa confession de cette nuit, et aussi cette confession même. Elle pense du mal de lui. Qu'elle sache donc tout. Je commençai sans maladresse et captai aussitôt toute leur curiosité. Pour cette fois, Tatiana Pavlovna humait mes paroles. Maman restait plus réservée, mais un léger sourire, beau, quoique absolument désespéré, parut sur son visage et ne le quitta presque plus de tout le récit. Je parlais donc, tout en me sachant incompréhensible pour elle. Tatiana Pavlovna, par extraordinaire, ne me cherchait pas noise, ne critiquait pas mon exactitude. De temps en temps, elle serrait les lèvres et fermait les yeux, comme faisant effort pour comprendre. Parfois, il me semblait que mes écouteuses saisissaient tout, mais ce ne pouvait pas être. Je parlais, par exemple, de ses opinions, et principalement de son enthousiasme d'hier, de son enthousiasme pour maman, de son amour pour maman, dont il avait baisé le portrait. Entendant, elles échangèrent un rapide regard. Maman était devenue toute rouge. Ensuite, naturellement, je ne pouvais pas, devant maman, toucher le point capital, c'est-à-dire la rencontre avec elle et tout le reste, surtout sa lettre d'hier, et comment Versilov avait été ressuscité par cette lettre. De sorte que tous ces sentiments d'hier, dont je pensais faire tant de plaisir à maman, restèrent incompris. Mais pas par ma faute, car tout ce qui pouvait se raconter, je l'avais raconté, très bien. J'avais terminé dans un désarroi complet. Leur silence ne s'interrompait pas, et je me trouvais mal à l'aise. Sûrement il est revenu maintenant, ou peut-être reste-t-il chez moi à m'attendre, fis-je en me levant. « Va, va !» approuva Tatiana. « Tu es allée en bas ?» me demanda maman à mi-voix
comme nous nous disions adieu. Oui, j'ai salué sa dépouille et j'ai prié pour lui. Quelle face calme et belle, maman. Merci, maman, de n'avoir pas économisé le velours. Cela m'avait paru singulier d'abord, mais j'ai reconnu aussitôt que j'aurais fait de même. « Tu iras demain à l'église ?» demanda-t-elle et ses lèvres tremblèrent. « Comment donc, maman ? Je viendrai aujourd'hui déjà pour les prières, et je reviendrai encore. D'ailleurs, c'est demain l'anniversaire de votre naissance, maman, mon amie chérie. » Je sortis assez péniblement étonnée. « Comment peut-on demander si j'assisterai ou non au service funèbre ? Et alors, combien plus doit-on douter qu'il y assiste, lui ?» Je savais que Tatiana Pavlovna me poursuivrait. Je m'arrêtai donc devant la porte, mais elle, m'ayant rejoint, me poussa dans l'escalier, sortit après moi et ferma. « Ainsi, Tatiana Pavlovna, vous n'avez André Petrovitch ni aujourd'hui ni demain ? Je suis effrayée. » « Tais-toi ! La grande affaire que tu sois effrayée ! Pis, qu'est-ce que tu as passé dans le récit de toutes ces fadaises d'hier ?» Je ne trouvais nécessaire de rien cacher, et presque irritée contre Versilov, je parlais de la lettre de Katerine Nikolaïevna et de l'effet produit, c'est-à-dire de sa résurrection à une nouvelle vie. À ma surprise, le fait ne l'étonna nullement, et je devinais qu'elle le connaissait. « Mais tu mens ?»« Non, je ne mens pas. »« Tiens, » sourit-elle d'un air ironique, « il a ressuscité. » Cela aussi peut lui arriver. Est-ce vrai qu'il baisa le portrait ? C'est vrai, Tatiana Pavlovna. Il le baisait avec sincérité ? Est-ce qu'il feint jamais ? C'est honteux, Tatiana. Vous avez une âme dure, une âme de femme. J'avais parlé avec emportement, mais elle semblait ne pas entendre. Elle s'arrêtait de nouveau à réfléchir, malgré le grand froid de l'escalier. J'avais ma pelisse et elle était en robe. « Je t'aurais confié une affaire, mais c'est dommage. Tu es trop bête !» fit-elle enfin avec mépris et ennui. « Écoute, va chez Anna Andreevna et vois ce qui se passe là-bas. Mais non, n'y va pas, tu n'es qu'un lourdeau. Va-t'en. Qu'as-tu à rester là comme une borne ?»« Je n'irai pas chez Anna Andreevna. Anna Andreevna pourtant m'a envoyé chercher. » Elle était sur le point de rentrer et elle avait déjà ouvert la porte. Elle la referma de nouveau. « Pour rien au monde, je n'irai chez Anna Andreevna, » répétai-je avec un plaisir méchant. « Je n'irai pas, parce que vous venez de m'appeler lourdeau, alors que je n'ai jamais été aussi perspicace qu'aujourd'hui. Toutes vos affaires, je les vois sur la paume de ma main. Je n'irai tout de même pas chez Anna Andreevna. » « Je le savais bien, » s'écria-t-elle, et continuant à réfléchir, « on va l'étrangler dans un nœud coulant. »« Anna Andreevna ?»« Imbécile !»« Mais alors de qui parlez-vous ? De Catherine Nikolaïevna ? Quel nœud coulant ?» Tatiana Pavlovna me perça du regard. « Toi, que fais-tu là-dedans » demanda-t-elle à brûle-pourpoint. « Quelle part y prends-tu ? J'ai entendu dire quelque chose de toi. Prends garde !»« Écoutez, Tatiana Pavlovna, je vous révélerai un secret terrible, mais pas tout de suite, je n'ai pas le temps. Demain, en tête à tête. Mais en revanche, dites-moi aujourd'hui toute la vérité, et quel est ce nœud coulant ? Car je tremble. « Je me moque de tes frissons !» s'écria-t-elle. « Quel secret encore veux-tu me confier demain ? Est-ce que vraiment tu sais quelque chose ?» Et son regard inquisiteur revint sur moi. « Tu lui as juré toi-même que Kraft avait brûlé la lettre. » « Tatiana Pavlovna, je vous répète, ne me tourmentez pas, » continuai-je sans répondre à sa question, car j'étais hors de moi. « Faites attention, Tatiana, il peut survenir un malheur encore plus grand du fait que vous me cacheriez quelque chose. Il était hier dans la résurrection la plus complète. Hé, va-t'en, bouffon, toi-même es amoureux comme un pierrot, le père et le fils sur le même gibier. » « Pouah, les impudents !» Elle s'éclipsa, me fermant la porte au nez. Mise en fureur par son insolence et ce cynisme où peut seul atteindre une femme,
Je sortis en courant et passai chez lui. De nouveau, la nounou me répondit qu'il n'était pas rentré. « Mais ne viendra-t-il pas ?»«
Dieu le sait. »
2. Ressuscité hier et guéri de son malsain amour, il eût dû être chez moi ou chez maman. Il n'était même pas chez lui. A-t-il donc subi une nouvelle crise après son enthousiasme et tout ce pathos? Sa résurrection n'a-t-elle été qu'une secousse galvanique? Et peut-être se traîne-t-il au hasard, en butte à cette même fureur que déchaîna en lui la nouvelle de la candidature Bioring. Une question se pose. Qu'adviendra-t-il de maman, de moi, de nous tous, et qu'adviendra-t-il d'elle? De quel nœud coulant parlait Tatiana Pavlovna en m'envoyant chez Anna Andreïevna? Serait-ce chez celle-ci qu'on est en train de graisser la corde? Pourquoi chez elle? Par dépit, j'avais juré de ne pas m'y rendre. Je m'y rendrai pourtant, et sur l'heure. Mais qu'avait donc Tatiana Pavlovna à parler du document? Et n'est-ce pas Versilov qui me disait hier « brûle-le » Telles étaient mes pensées. Et tel était le nœud coulant qui m'étranglait, moi aussi. Mais principalement, j'avais besoin de lui. Nous nous serions entendus en deux mots. Je l'aurais pris par les mains, les lui aurais serrées, aurais trouvé dans mon cœur des paroles chaleureuses. Rêvais-je irrésistiblement. Oh, j'aurais vaincu sa folie. Mais où est-il? Où est-il? Et il fallut qu'en ce moment d'exaltation, Lambert parut devant moi, à quelques pas de mon logis. Il poussa une exclamation joyeuse et me saisit par la main. « Je reviens de chez toi pour la troisième fois. Enfin, allons déjeuner. » « Un moment, tu viens de chez moi ? André Petrovitch n'y est pas ? Il n'y a personne là-bas, laisse-les tous. Tu t'es fâché hier, bêta, tu étais ivre. J'ai à te parler de choses sérieuses. » J'ai eu aujourd'hui de superbes nouvelles à propos de ce dont nous avions causé hier. Lambert, interrompis-je en déclamant quelque peu. Si je m'arrête, c'est pour rompre définitivement. Déjà hier, je t'avais signifié ton congé, mais tu ne comprends jamais. Lambert, tu es puéril et bête comme un Français. Tu me crois encore le petit garçon de chez Touchard. Hier, j'étais ivre, mais pas d'avoir bu. Et si j'approuvais tes paroles, c'était par ruse. Je voulais connaître tes pensées. Je te mystifiais, et d'un cœur joyeux, tu te laissais aller à tes radotages. Sache que l'idée d'un mariage entre elle et moi est si saugrenue qu'un mioche en hausserait les épaules. Et tu as cru que je donnais dans ce beau projet. Tu l'as cru parce que tu n'es pas admis dans le monde et que tu ignores comment les choses s'y passent. Et maintenant, je vais te dire tout net ce que tu veux. Tu veux m'emmener pour m'enivrer, afin que je te livre le document et que j'entre dans ton infâme complot contre Catherine Nikolaïevna. Comme tu t'abuses, je ne mettrai jamais les pieds chez toi. Et sache aussi que demain ou après-demain, pas plus tard, ce papier sera entre ses mains, car ce document lui appartient, étant écrit par elle, et je le lui remettrai en main propre. Et si tu tiens à savoir où, apprends que ce sera dans le logement même de Tatiana Pavlovna, en présence de Tatiana Pavlovna, et que je ne réclamerai rien en échange. Et maintenant, va-t'en pour toujours. Sinon, Lambert, je cesserai de te traiter avec cette courtoisie. Ah, j'ai une bien néfaste habitude, et qui me joue à plus d'un tour. C'est celle de poser. En terminant cette proclamation dont je scandais les mots avec délice, il avait fallu que je renseignasse Lambert sur les circonstances de la reddition du document. Je n'avais pu résister au plaisir de lui imposer par le luxe des détails. Bavardage de femme, et dont les conséquences furent singulièrement graves. Car si Lambert était inapte à combiner une vaste entreprise, du moins excellait-il à tirer parti des petites choses, et le renseignement relatif à Tatiana Pavlovna s'était gravé dans sa tête. Pourtant, il fut terriblement déconcerté tout d'abord. « Écoute, » balbutia-t-il, « Alphonsine, Alphonsine chantera. Alphonsine a été chez elle. Écoute, j'ai une lettre, presque une lettre, où Lakhmakov parle de toi. C'est le grêlé qui me l'a procuré. Te rappelles-tu le grêlé? Et tu verras, tu verras. Allons.
Tu mens.
Montre la lettre. Elle est à la maison, chez Alphonsine. Allons. Bien entendu, il mentait et divaguait, craignant que je ne lui échappasse. Mais je le plantai là, au milieu de la rue, et quand il voulut me suivre, m'arrêtant, je le menaçai du poing. Sans plus insister, il me laissa partir. Peut-être un plan nouveau germait-il dans sa tête, mais la série des rencontres n'était pas close pour moi, et chaque fois que je me remémore ce malheureux jour, il me semble qu'une maudite corne d'abondance, heure par heure, versait sur moi ses dons funestes. Arrivé à mon domicile, je heurtai dans l'antichambre un grand jeune homme. Fastueuse pelisse, figure longue et pâle, aspect élégant et grave. Il portait un pince-nez qu'il enleva dès qu'il m'aperçut, par politesse évidemment, et soulevant son tube, il me souhaita le bonsoir avec une courtoisie souriante et s'engagea dans l'escalier. Nous nous étions reconnus aussitôt, quoique je ne l'eusse jamais aperçu qu'une fois à Moscou. C'était le jeune Versilov, gentilhomme de la chambre, frère d'Anna Andreïevna, et par conséquent, presque mon frère. La logeuse le reconduisait. Le logeur n'était pas encore rentré de son service. Quand il fut sorti, je me jetai vers elle. « Que faisait-il? Il était dans ma chambre ?»«
Il n'était pas du tout dans votre chambre, il était venu chez moi. »
répliqua-t-elle en faisant un pas de retraite.
« Non, cela ne se passera pas ainsi. Veuillez répondre. Pourquoi est-il venu ?»«
Ah, mon Dieu, il faut absolument vous raconter pourquoi le monde vient. Il me semble que nous pouvons aussi avoir nos intérêts. » Le jeune homme voulait peut-être emprunter de l'argent et il me demandait une adresse. Peut-être que je lui avais promis l'autre fois.
Quelle autre fois?
Ah, mon Dieu, mais ce n'est pas la première fois qu'il vient. Elle s'en alla. J'avais surtout compris que le ton changeait. On commençait à me parler grossièrement. Il était clair qu'il y avait un nouveau secret. La première fois, le jeune Versilov était venu avec sa sœur, Anna Andreïevna, pendant que j'étais malade. Je me souvenais de cela trop bien, ainsi que d'un mot étrange que me lança hier Anna Andreïevna. Peut-être le vieux prince s'arrêtera chez vous. Je courus chez Anna Andreïevna. Elle n'y était pas. Elle est partie pour Tsarskoïe. Demain seulement, vers 7 heures-ci, elle sera de retour, me répondit le Suisse. Elle, à Tsarskoïe? Et naturellement chez le vieux prince, et son frère qui inspecte mon logement. Non, cela ne sera pas, avais-je grincé. Et si un nœud coulant s'apprête, je saurai défendre la pauvre femme. Dans ma tête brûlante passa tout à coup le souvenir de ce cabaret où André Petrovitch avait l'habitude d'engourdir ses mélancolies. Me réjouissant d'avoir deviné, je m'y rendis immédiatement. Il était 4 heures et le jour déclinait. Dans le cabaret, on m'annonça qu'il était venu. Il est resté un moment et s'en est allé, mais peut-être il reviendra. Je décidai de l'attendre et commandai le dîner. J'absorbais platée sur platée pour avoir le droit de rester là longtemps. Et je crois bien y être resté 4 heures. Je ne décris pas ma tristesse et ma fiévreuse impatience. Tout en moi frissonnait. Cet orgue de barbarie, ce monde, oh, toute cette angoisse, s'imprima dans mon âme, peut-être à jamais. Je ne décris pas non plus les pensées qui tourbillonnaient dans ma tête sous un vent de malheur. Mais ce qui me tourmentait jusqu'à la souffrance, mettant de côté naturellement mon tourment principal, c'était, telle une venimeuse mouche d'automne qui tournoie, vrombit, se tait, vous obsède et tout à coup pique, le souvenir d'un événement dont je n'ai jamais parlé à personne. Voici de quoi il s'agit. Il faut que cela aussi, je le consigne quelque part. 3. Quand fut décidé mon départ de Moscou pour Pétersbourg, l'on m'avait notifié, par Nicolas Simeonovitch, que j'eusse à attendre de l'argent pour le voyage. De l'argent, j'en avais. Pourtant, je décidai d'attendre. Je supposais qu'il allait m'arriver par la poste. Quand un jour, Nicolas Simeonovitch, en rentrant chez lui, m'avise, et laconiquement à son ordinaire, que je dois me rendre à Miasnitskaya, demain à 11h du matin, chez le prince Véonski. Là, le chambellan Versilov, fils d'André Petrovitch, descendu à son arrivée de Pétersbourg chez son camarade de lycée, Véonski, me remettrait la somme destinée au voyage. L'affaire semblait simple. André Petrovitch pouvait parfaitement confier ladite somme à son fils au lieu de l'envoyer par la poste. Pas de doute que Versilov ne voulut me mettre en relation avec son fils, mon frère. Mais comment me conduire en l'inattendue occurrence? Et ne va-t-on pas encore trouver moyen de léser ma dignité? Le lendemain, à 11h précise, je me présentai chez le prince Véonski. Je m'étais arrêté dans l'antichambre. Des pièces du fond arrivaient les échos d'une conversation bruyante et de rire. Le prince avait d'autres hôtes que le chambellan. J'avais enjoint au valet de m'annoncer. Il me regarda singulièrement. Il me sembla même assez peu respectueux. À ma surprise, un long temps s'écoula, 5 minutes au moins, et toujours les mêmes rires et la même conversation de l'autre côté. Naturellement, j'attendais debout, sachant très bien qu'il n'eût pas été convenable que moi, un seigneur aussi, m'assisse dans cette antichambre où se tenait la valetaille. Et voilà que 2 laquais osèrent s'asseoir en ma présence. Je me détournai, affectant de ne pas voir, mais je tremblais nerveusement de tout mon corps. Brusque, je m'approchai d'un laquais et lui ordonnai d'aller à l'instant même m'annoncer encore une fois. Malgré mon regard sévère, il me regarda nonchalamment, sans se lever, tandis qu'un autre avait déjà répondu pour lui. « Mais c'est tout annoncé, ne vous inquiétez pas !» J'avais décidé d'attendre encore 1 minute et même moins. Ensuite, je m'en irais. J'étais habillé convenablement, l'habit et le pardessus étaient neufs, le linge absolument frais. Maria Ivanovna elle-même s'en était occupée pour la circonstance. Quant au laquais, j'ai su plus tard, étant déjà à Pétersbourg, que sûrement dès la veille, ils avaient appris par le domestique de Versilov qu'un frère naturel, un étudiant, allait venir. La minute s'était écoulée. Dois-je m'en aller ou non? Dois-je m'en aller ou non? Répétai-je presque frissonnant. Mais un domestique approchait, agitant 4 billes rouges. « Voilà, veuillez recevoir 40 roubles. » J'étais en ébullition. Une telle offense! Toute la nuit, fiévreusement, j'avais songé à cette rencontre de 2 frères, arrangée par Versilov, et à la façon dont il convenait que je me tinsse pour ne pas compromettre l'édifice d'idées échafaudées dans ma solitude. Je serais noble, fière, triste un peu, et même un peu farouche en cette société du prince Véonski. Et de la sorte, je m'introduisais dans ce monde en bonne posture. Oh, je ne me ménage pas, je veux inscrire tous ces cuisants détails. Et tout à coup, 40 roubles par un laquais, dans l'antichambre, et après 10 minutes d'attente, tout droit des mains, des doigts d'un laquais, même pas sur un plateau ou dans une enveloppe. J'avais ordonné au domestique de remporter l'argent pour que monsieur me l'apporte à lui-même. Prétention, comme on pense, incompréhensible pour le valet. Pourtant, j'avais crié si impérieusement qu'il obtempéra. Il me sembla que là-bas, on avait dû percevoir mon cri. La conversation et les rires avaient cessé. Presque aussitôt, j'entendis des pas graves, paisibles, et la hautaine figure du beau jeune homme. Il m'avait paru alors plus pâle et plus maigre qu'à la rencontre d'aujourd'hui. Se montra sur le seuil. Robe de chambre de soie rouge, pantoufles, pince-nez. Sans dire mot, il se mit à m'examiner à travers son lorgnon. Moi, comme une brute, j'avais fait un pas vers lui et je le regardais avec provocation. Mais il ne me contempla pas plus de 10 secondes. Sur ses lèvres apparut un sourire imperceptible et d'autant plus ironique. Il fit volte-face sans prononcer une parole et s'en retourna aussi calmement, aussi indifféremment qu'il était venu. Oh, leur mère leur enseignait l'arrogance dès le berceau. Naturellement, je restais abasourdi. Presque au même moment, reparut le valet avec les mêmes billets dans les mains. « Veuillez prendre, c'est de Pétersbourg, pour vous, mais on ne peut vous recevoir. Une autre fois peut-être, quand on sera plus libre. » Mais la honte continuait à me démoraliser. J'acceptai l'argent et me dirigeai vers la porte. J'avais accepté machinalement et parce que j'étais en désarroi. Il fallait ne pas accepter. Cependant, le laquais se permit une incartade digne d'un laquais. Il avait largement ouverte la porte devant moi et gravement « S'il vous plaît, » disait-il. « Tu es un drôle, » avais-je hurlé, la main haute. « Et ton maître est un lâche. Annonce-lui ça tout de suite. » Et je sortis vivement. « Ne vous avisez pas. Si je le disais à mon maître, on vous fourrerait au poste. Et n'osez pas lever la main. » Je descendis l'escalier. Un escalier à cage immense. Accoudés à la rampe, les 3 laquais suivaient des yeux ma retraite. Des sages diront, que le diable les emporte, et qu'il n'y a là que la susceptibilité maladive d'un blanc bec. Soit. Mais pour moi ce fut une blessure. Et cette blessure, au moment où j'écris ceci, c'est-à-dire quand tout est fini et même vengé, n'est pas cicatrisée encore. Je parle de vengeance. Oh, je n'ai jamais rêvé que de revanche généreuse. Que l'offenseur sente le poids de ma générosité, et je me tiens pour venger. Je n'avais jamais parlé à personne de cette rencontre avec mon frère, même pas à Maria Ivanovna ou à Lise. Elle me laissait l'impression d'un soufflet honteusement accepté. Et voilà que ce monsieur, je le rencontre, et dans quelles circonstances? Et il me sourit, et il se découvre la tête, et même le nez, et il me fait amicalement « Bonsoir ». La plaie s'est rouverte. 4. Après 4 heures d'attente dans le cabaret, je me précipitai chez Versilov. Il n'était pas rentré du tout. La nounou, qui s'ennuyait, m'avait prié de dépêcher au logis Daria Onésimovna. Oh oui, je pensais bien à cela. Je passais aussi chez maman, mais sans entrer. Ayant appelé Glycère dans le vestibule, j'avais appris qu'il n'était pas venu et que Lise s'était absentée. Je voyais que Glycère aurait également voulu me demander et peut-être me confier quelque chose, mais avais-je le loisir de l'écouter? Dernier espoir, peut-être était-il enfin chez moi, mais je n'y comptais plus. Ma raison se brouillait. Et voilà que je trouve dans ma chambre Alphonsine et mon logeur. Plus exactement, ils en sortaient. Pierre Hippolytovitch tenait une bougie. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » vociférai-je. « Comment avez-vous osé introduire dans ma chambre cette drôlesse ?»« Tiens ! » s'écria Alphonsine. « Et les amis ? » « Ôtez-vous de là ! » hurlai-je. « Mais c'est un ours ! » Elle s'envola dans le couloir, feignant d'avoir peur, et disparut chez l'hôtesse. Pierre Hippolytovitch, bougeoir en main, s'approcha de moi avec un air sévère. « Permettez-moi de vous faire observer, Arkad Makarovitch, que vous êtes trop emporté. Sauf votre respect, mademoiselle Alphonsine n'est pas une drôlesse. Tout au contraire, elle est en visite, non chez vous, mais chez ma femme, qu'elle connaît depuis longtemps. » « Mais comment avez-vous osé l'introduire dans ma chambre ? » ai-je répété en me prenant la tête, qui presque subitement commença de me faire mal. « Mais, par hasard, c'est moi qui étais entré fermer le vasistas. Je l'avais ouvert pour aérer. Et comme nous continuions, Alphonsine Karlovna et moi, la conversation commençait, elle est entrée dans la chambre tout en causant, sans s'en apercevoir.
Ce n'est pas vrai. Alphonsine est une espionne. Lambert un espion. Vous-même aussi, peut-être. Elle était venue pour me voler quelque chose.
C'est comme il vous plaira. Aujourd'hui, vous dites une chose, demain une autre. J'ai loué mon logement personnel. J'ai loué pour quelque temps, et moi-même, avec ma femme, je demeurerai dans le cabinet. De sorte qu'Alphonsine Karlovna, à présent, est ici presque aussi locataire que vous.
Vous avez loué l'appartement à Lambert ?
M'écriai-je. Non, pas à Lambert, sourit-il de son long sourire de tantôt. Mais ce sourire était déjà moins vacillant. Je suppose que vous devez savoir à qui, et vous faites semblant de l'ignorer. C'est pour la forme que vous vous fâchez. Bonne nuit.
Oui, oui, laissez, laissez-moi tranquille.
Et j'agitai mes mains, pleurant presque d'énervement, de sorte qu'il me regarda avec surprise. Tout de même, il sortit. Je poussai le verrou, me jetai sur mon lit, m'enfouis le visage dans l'oreiller. Et voilà pour cette affreuse journée, la première des trois journées affreuses par quoi se termine mon journal. Chapitre 10. 1. Il est nécessaire que, par anticipation, je renseigne en bref le lecteur. Sous le pullulement des épisodes, on risquerait de voir mal le cours de l'histoire. Le vieux prince, sous couleur de santé, avait été relégué à Tsarskoïe-Selo, de sorte que la nouvelle de son mariage avec Anna Andreïevna ne put se répandre. Pourtant, ce vieillard si faible n'eut pour rien au monde consenti à trahir cette Anna Andreïevna qu'il avait demandée en mariage. Sous ce rapport, c'était un vrai chevalier, et tôt ou tard, il pouvait se lever et aller à l'accomplissement de son destin avec une force incoercible. Les caractères timorés ont de ces ressauts quand on les pousse à bout. D'ailleurs, pour le moment, Catherine Nikolaïevna faisait patte de velours. Pas une fois, ni par un propos, ni par une allusion, elle ne s'était permis de lui dire du mal d'Anna Andreïevna, ou de contrecarrer en quoi que ce fût sa volonté de se marier avec elle. Au contraire, elle était toute amabilité pour la fiancée de son père. Anna Andreïevna, placée ainsi dans une situation très délicate, comprit avec son tact féminin que la moindre calomnie sur le compte d'une Catherine Nikolaïevna si filiale, si accommodante, et devant qui le prince était d'ailleurs en extase, éveillerait en lui la méfiance et peut-être l'indignation. Ainsi luttaient de courtoisie et de longanimité les deux rivales. Et le prince, au noble spectacle de ce tournoi, ne savait qui admirer le plus. En sa qualité d'homme faible et tendre, il commença de souffrir et de s'incriminer soi-même. Il paraît que son anxiété assumait un caractère maladif et que, loin qu'il se rétablît à Tsarskoïe, il était sur le point d'y prendre le lit. Je noterai ici un renseignement dont je n'eus connaissance que beaucoup plus tard. Bioring aurait proposé tout simplement d'emmener le vieillard à l'étranger, à la faveur de quelques subterfuges, d'y racoler un docteur complaisant et, sur la foi du certificat médical, de proclamer que le malade avait tout à fait perdu la raison. Artifice dont Catherine Nikolaïevna ne voulut pas entendre parler. Du moins l'affirma-t-on dans la suite. L'affaire, on peut dire, était déjà sans issue, lorsqu'Anna Andreïevna apprit par Lambert qu'il existait une lettre, ancienne il est vrai, où la fille consultait un avocat sur les moyens de faire prononcer l'interdiction du père. Sur quoi Anna Andreïevna échafauda son plan hardi. Il consistait en ceci. Tout dévoiler au prince, l'épouvanter, lui faire voir qu'un asile d'aliénés guettait ses derniers ans. Il refuserait de croire. Alors, exhibition de la lettre de sa fille. Et l'on profitait de son abattement pour le transporter à Pétersbourg, tout droit dans mon logis. M'éloignant momentanément du récit, je dirai qu'elle ne s'était pas exagéré l'effet probable du coup. L'impression sur le vieux prince fut 10 fois plus forte qu'elle et nous tous n'avions supposé. J'avais bien soupçonné déjà qu'il savait quelque chose à propos du compromettant papier. Mais tant que ce n'avait été qu'une rumeur, il s'était appliqué à la tenir pour suspecte et à ne pas s'émouvoir. J'ajouterai encore que le fait de l'existence de la lettre avait agi sur Catherine Nikolaïevna aussi avec plus de force que je n'aurais cru, moi, qui la portais dans ma poche. Mais j'anticipe trop. « Pourquoi dans mon logement » demandera-t-on. « Pourquoi transporter le prince dans une chambrette misérable ?»« Pourquoi pas, comme le proposait Lambert, dans quelque riche appartement qu'on louerait à cet effet ?» Là gisait toute l'audace du plan d'Anna Andreïevna. Le principal était de présenter le document au prince dès son arrivée. Or, je ne livrais pas le document. Comme il n'y avait pas de temps à perdre, Anna Andreïevna, confiante en son prestige, s'était décidée à engager la lutte sans le document, mais en installant le prince chez moi. Chez moi. Pourquoi ? Mais pour pouvoir, du même coup, fondre sur moi aussi, tuer de la même pierre 2 moineaux. Elle comptait m'impressionner par l'imprévu de la conjoncture. Elle considérait que, voyant le vieillard chez moi, témoin de sa frayeur, de sa débilité, entendant leur prière commune, je céderais et livrerais le document. Je l'avoue, le calcul décelait une psychologie habile. Et s'il ne réussit pas, il s'en fallut de peu. Quant au vieillard, elle avait pu l'entraîner en lui déclarant qu'elle le menait chez moi, tant il m'aimait et m'estimait. La tare de son système consistait en une hypothèse inexacte sur mon caractère. L'artificieuse femme spéculait trop cyniquement sur mon innocence, ma naïveté, même ma sensibilité. D'ailleurs, elle ne mettait pas en doute que je ne détinsse encore le document. Sur ce point, elle était perspicace. Mais je pouvais le remettre à quelqu'un, à Catherine Nikolaïevna par exemple. Aussi saurait-elle prévenir cette éventualité en fonçant à l'improviste. Lambert la confirmait dans cette manière de voir. La situation de ce malandrin était critique. Il désirait de toutes ses forces me détacher d'Anna Andreïevna pour vendre le document à Lakhmakov, ce qu'il jugeait plus avantageux. Mais comme je ne livrais rien, il se résignait à prêter son concours à Anna Andreïevna. Ainsi ne serait-il pas privé de tout profit. C'est donc de tout cœur qu'il lui offrit ses services, et je sais même qu'il lui proposa de se mettre en quête d'un prêtre. Elle le pria de calmer son zèle. Lambert lui paraissait extrêmement grossier et soulevait en elle une aversion absolue. Par prudence, elle acceptait tout de même ses services. Ils consistaient en menus travaux d'espionnage. À ce propos, aujourd'hui encore, je ne sais pas au juste s'ils avaient acheté Pierre Hippolytovitch, mon hôte, s'il avait reçu d'eux quelque argent, ou si tout simplement ils s'étaient accointés à eux pour les joies de l'intrigue. Quoi qu'il en soit, il m'espionnait, de même sa femme. On comprendra maintenant que, quoique en partie prévenu, je ne pouvais deviner que demain ou après-demain, je trouverais chez moi le vieux prince. Et je n'aurais pas pu m'imaginer une telle audace de la part d'Anna Andreïevna. Machiner un plan, y faire des allusions, ce n'est rien. S'y résoudre et en absorber la réalisation, cela demande du caractère. 2. Je continue. Je m'étais réveillée tard dans la matinée. J'avais dormi lourdement, sans songe, de sorte qu'au réveil je me sentais aussi dispos, d'âme et de corps, que si la journée d'hier n'eût pas été. J'avais résolu de me rendre directement à l'église, puis d'aller du cimetière chez maman, après la cérémonie, et de ne pas la quitter de la journée. Ainsi étais-je sûre de rencontrer Versilov aujourd'hui, tôt ou tard. Alphonsine et le logeur étaient déjà partis. Je ne voulais pas questionner l'hôtesse. D'une façon générale, j'avais résolu de cesser toute relation avec ces gens, et même de déménager. Dès qu'on m'eut apporté le café, je m'enfermai de nouveau. Mais on frappa à ma porte. Surprise ! Trichatov. Je lui avais ouvert aussitôt, et très content, le priai d'entrer. Il refusa. Je dirai seulement deux mots du seuil. Mais non, mieux vaut entrer. Il sied de parler ici à voix basse. Seulement, je ne m'assiérai pas chez vous. Vous regardez ma méchante défroque. Lambert a repris la pelisse. Il portait en effet un vieux pardessus trop long pour sa taille. Il se tenait devant moi, sombre et triste, les mains dans les poches, et sans ôter son chapeau. « Je ne m'assiérai pas, je ne m'assiérai pas. Écoutez, Dolgorouki, sans rien savoir dans le détail, je sais que Lambert prépare un vilain coup contre vous. C'est imminent. Donc, soyez sur vos gardes. C'est le grêlé. Vous souvenez-vous du grêlé, qui par imprudence m'a appris cela. En quoi l'affaire consiste, il ne me l'a pas dit. Je suis venu pour vous prévenir. Adieu. » « Mais asseyez-vous, cher Trichatov. Quoique je sois pressé, je suis content de vous voir. Je ne m'assiérai pas, je ne m'assiérai pas. Et que vous soyez content de me voir, je m'en souviendrai. Et, Dolgorouki, à quoi bon tromper son monde? Nous sommes à présent chez le grêlé. Adieu, je suis trop vil pour m'asseoir chez vous. » « Mon cher Trichatov. Non, voyez-vous, Dolgorouki, je vais travailler à de sales besognes. On me lotira d'une pelisse plus confortable encore que l'autre, et j'aurai des trotteurs. Mais au cours de mon existence, qui sera honteuse, j'aurai du moins la satisfaction de me dire que j'ai eu la pudeur de ne pas m'asseoir devant vous. Adieu, allons, adieu, et je ne vous donne pas la main. Alphonsine même hésite à la prendre. Et je vous prie, ne courez pas après moi, et ne venez pas chez moi. C'est une condition entre nous. » L'étrange garçon pivota et sortit. Je n'en avais pas le loisir maintenant, mais je résolus de le retrouver aussitôt que j'aurais arrangé mes affaires. Je ne veux pas décrire par le menu cette matinée. Versilov n'était pas à l'enterrement, et à leur attitude, il me sembla qu'elle ne l'attendait pas à l'église. Maman priait avec ferveur et paraissait tout à sa prière. Auprès du cercueil se tenaient Tatiana Pavlovna et Lise. Mais je ne veux rien décrire. Rien. Après l'enterrement, tout le monde revint et l'on se mit à table. De nouveau, à leur air, je conclus qu'on ne l'attendait pas non plus au repas. Quand on se leva de table, je m'approchai de maman, je l'embrassai tendrement et lui souhaitai sa fête. Lise en fit autant. « Écoute, frère, » me glissa-t-elle, « elles t'attendent. » « Je le devine, Lise, je le vois. » « Il viendra sûrement. » « Cela signifie qu'elles ont des renseignements précis, » pensais-je, mais je n'interrogeais pas. Toute cette énigme de nouveau me pesait sur le cœur comme un pavé. Nous étions maintenant dans le salon. Oh, comme il me plaisait d'être auprès de maman, de la regarder. Elle me demanda de lui lire quelques fragments de l'Évangile. Je lus un chapitre de Luc. Elle ne pleurait pas, elle n'était même pas très triste, mais jamais son visage ne m'était apparu aussi spiritualisé. La conversation ne tarissait pas. On commença à parler du défunt. Tatiana raconta de lui beaucoup de choses que j'ignorais. La transcription de cette conversation ne serait pas sans intérêt. Tatiana Pavlovna semblait avoir modifié son air coutumier. Elle se montrait douce, très caressante, et surtout très calme. Quoique, pour distraire maman, elle parla beaucoup. Mais je me suis trop bien rappelé un détail. Maman était assise sur le canapé. À gauche, sur une petite table ronde, était posée une icône antique. Deux saints y étaient peints. Elle avait appartenu à Makar Ivanovitch, je le savais. Le défunt, qui ne s'en séparait jamais, la tenait pour miraculeuse. Tatiana Pavlovna l'avait regardée plusieurs fois. « Écoute, Sophie, » dit-elle, changeant tout à coup de conversation, « au lieu de laisser l'icône ainsi, Ne serait-il pas mieux de la dresser sur la table en l'appuyant au mur et d'allumer la lampe devant ?
Non, laissons-la ainsi, répondit maman.
Tu as raison, ce serait trop solennel.
Je n'avais pas compris alors, mais le fait est que Makar Ivanovitch avait dès longtemps légué cette image à André Petrovitch et maman se préparait maintenant à la lui remettre. Il était 5 heures, la conversation avait repris. Soudain, un frisson passa sur le visage de maman. Elle se redressa et se mit à écouter, tandis que Tatiana Pavlovna continuait sans remarquer rien. Je me tournai vers la porte et un instant après, je vis André Petrovitch. Il était arrivé, non par le grand escalier, mais par l'escalier de service, la cuisine et le couloir. Et seul de nous, maman l'avait entendu venir. Maintenant, je décrirai la scène insensée qui suivit. Elle fut courte. Il était vêtu comme toujours, c'est-à-dire presque élégamment. Et je ne remarquai rien en lui d'anormal, sauf qu'il tenait un petit bouquet de fleurs rares. Il les présenta avec un sourire à ma mère, qui, tout en le regardant un peu craintive, les prit et s'émut. Ses joues pâles s'avivèrent légèrement. De la joie brilla dans ses yeux. « Je le savais que tu accepterais ainsi, Sonia. » Comme nous nous étions tous levés à son entrée, il s'approcha de la table et, prenant la chaise d'Élisabeth qui se trouvait à côté de maman, sans remarquer qu'il occupait une place prise, s'assit, de sorte qu'il se trouvait à côté de la petite table où était posée l'image. « Bonjour à tout le monde. Sonia, je ne suis pas venue à l'enterrement pour ne pas arriver auprès du mort avec un bouquet. Mais tu ne m'attendais pas, je le sais. Le vieillard, j'en suis sûre, ne se fâchera pas de ses fleurs. Lui-même nous a conseillé la joie. Je crois qu'il est quelque part dans cette chambre.
« Qui est dans la chambre ?» demanda Tatiana.
« Le défunt. Laissons. Vous savez que l'homme incrédule au miracle est toujours crédule aux superstitions. Mais je reviens au bouquet. Comment l'ai-je pu apporter? Je ne comprends pas. Par 3 fois, j'ai voulu le fouler aux pieds. »
Maman avait tressailli.
« Aie pitié de moi, Sonia, et de ma pauvre tête. Et je voulais le fouler parce qu'il était trop beau. Qu'y a-t-il de plus beau qu'une fleur? Je la porte. Et ici, c'est la neige et le froid. » Notre froid et les fleurs, quel contraste! Du reste, ce n'est pas cela. Tout simplement, j'avais envie de l'écraser parce qu'il était beau. Sonia, quoique je doive disparaître encore, je reviendrai bientôt, car bientôt j'aurai peur. Et quand j'aurai peur, qui me soignera ma peur? Où trouver un ange comme Sonia?
Quelle est cette image?
Ah, c'est du défunt, je me souviens. Elle est héréditaire, elle lui vient de son aïeul. Je sais, je me souviens, il me l'a léguée. Je me rappelle très bien. Et, à ce qu'il me semble, elle est schismatique. Montre un peu. Il prit l'icône, l'approcha de la bougie, l'examina attentivement, mais seulement quelques secondes, et la posa sur la table devant lui. Une appréhension douloureuse me serrait le cœur. La frayeur de maman se changeait en surprise et en compassion. Elle, avant tout, voyait en lui un malheureux. Ce n'était pas la première fois qu'il parlait si étrangement. Lise devint soudain, je ne sais pourquoi, toute pâle et me fit un signe de tête. Mais la plus effrayée était Tatiana Pavlovna.
« Et qu'avez-vous, cher André Petrovitch ? »
prononça-t-elle prudemment.
« Je ne sais pas, chère Tatiana Pavlovna, ne vous inquiétez pas. Je me rappelle encore que vous êtes Tatiana Pavlovna et que vous êtes très bonne. Pourtant, je ne suis rentrée que pour un instant. Je voudrais dire à Sonia quelque chose de bon et je cherche le mot. J'ai le cœur plein de paroles, de tout à fait singulières paroles, et ne sais pas les dire. Il me semble que je me partage en deux. »
Il nous examinait tous avec un visage très sérieux et une sincérité communicative.
Vraiment, je me partage en deux, et de cela j'ai terriblement peur. C'est comme si votre sosie se tenait à côté de vous. Vous-même, vous êtes intelligent et raisonnable, et l'autre veut absolument commettre quelque absurdité. Soudain, vous remarquez que c'est vous-même qui la voulez commettre. Vous voulez sans le vouloir. En résistant, vous voulez de toutes vos forces. Je connaissais autrefois un médecin qui, à l'enterrement de son père, à l'église, se mit tout à coup à siffler. Si je ne suis pas venue aujourd'hui à l'enterrement, c'est parce que j'étais convaincue que je sifflerais ou rirais, comme ce malheureux médecin, qui a du reste fini assez mal. Le souvenir de ce médecin m'obsède aujourd'hui. Tu sais, Sonia, j'ai de nouveau pris cette image. Il l'avait prise et la faisait pivoter. Et sais-tu, j'ai une envie extrême de la lancer contre le poêle. Je suis persuadée qu'elle se brisera en deux morceaux, ni plus ni moins. Il avait prononcé tout cela sans aucun air de mystère, mais ses mains tremblaient. « André Petrovitch !» s'écria maman. « Laisse, laisse l'image, André Petrovitch. Laisse, pose-la » intervint Tatiana Pavlovna. « Déshabille-toi et couche-toi. Arcade, va chercher un médecin. » « Pourtant, pourtant, comme vous vous inquiétez !» fit-il doucement. Puis, posant tout à coup les deux coudes sur la table et tenant sa tête entre ses mains. « Adieu, Sonia, je m'en vais de nouveau errer, comme j'ai déjà fait plusieurs fois. Mais certainement, je reviendrai de nouveau chez toi à un moment donné. Dans ce sens, tu es inévitable. Et chez qui donc me réfugierai-je lorsque tout sera fini? Crois-moi, Sonia, je suis venue aujourd'hui chez toi comme chez un ange et non comme chez un ennemi. Quel ennemi es-tu pour moi? Ne pense pas que ce soit pour briser cette image, car sais-tu, Sonia, j'ai tout de même envie de la briser. » Lorsque Tatiana Pavlovna avait crié « Laisse l'image !» elle la lui avait enlevée et l'avait gardée. Mais sur ce dernier mot « briser », il se dressa précipitamment. En un clin d'œil, arracha l'image des mains de Tatiana Pavlovna et la lança de toutes ses forces contre l'angle du poêle de faïence. Elle se brisa en deux morceaux. Ne prends pas cela pour une allégorie, Sonia. Ce n'est pas la succession de Macaire que je viens de briser. J'ai brisé cette image pour rien, pour le plaisir. Et tout de même, je reviendrai auprès de toi, auprès de mon dernier ange. Au surplus, tiens cela, si tu veux, pour une allégorie. C'en était certainement une. Il sortit, se dirigeant vers la cuisine où il avait déposé sa pelisse et son chapeau. Lise s'était évanouie dans son coin. Maman restait debout, les mains levées et croisées au-dessus de sa tête. « André Petrovitch, reviens pour nous dire adieu seulement, mon chéri !» « Il reviendra, Sophie, il reviendra, ne t'inquiète pas !» avait crié Tatiana Pavlovna dans un accès de fureur. « Tu as bien entendu, il a promis de revenir. Laisse-le, cet extravagant, s'amuser une dernière fois. Vieux et les jambes ramollies, qui le soignera sinon toi, la vieille nounou ?» Je voulais courir après lui, mais je dus me précipiter vers maman. Je la saisis dans mes bras. Glissaire était accouru avec un verre d'eau pour Lise. Maman, vite revenue à elle, s'affaissa sur le canapé, cacha son visage dans ses mains et se mit à pleurer. « Tout de même, tout de même, tout de même, cours après lui !» vociféra tout à coup Tatiana Pavlovna comme se ressaisissant. « Va, va, cours, ne le quitte pas d'une semelle, mais va donc !» Et de toutes ses forces, elle me séparait de maman. « Eh bien, j'irai moi-même. »« Arcade, ah, cours après lui bien vite !» s'écriait maman. Je m'élançai donc, dévalai l'escalier. Sur le trottoir, dans l'ombre, des passants se hâtaient. Je les dépassais, les dévisageais, courais plus loin. De déception en déception, je parvins au carrefour. Soudain, une idée me traverse l'esprit. On ne se fâche pas contre les fous. Or, Tatiana Pavlovna l'a brutalement invectivée. Cela veut dire qu'il n'est nullement fou.